Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Radio X.
Bon début de soirée sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Bienvenue à l'émission Radio X-Files, édition du vendredi 11 avril 2025. Et quelqu'un qui a eu une grosse semaine sur les ondes de choix, c'est l'animateur Christian Page. T'as fait le tour de la grille, mon cher, cette semaine. Je t'ai entendu personnellement sur les ondes avec mon ancien collègue JC. J'espère que t'as passé une belle semaine, Christian. Puis je suis très contente qu'on reparle de des souterrains qu'on a trouvés sous les pyramides. Mais ça, c'est juste un tease du sujet qu'on va parler ce soir parce qu'on a un extrait juste avant qui va lancer notre premier sujet de la soirée.
Allons-y.
Noé, qu'est-ce qu'il a dit?
Il va détruire le monde. Cela ne peut-il être évité?
L'homme a corrompu ce monde. Il l'a empli de violence. Nous devons disparaître. Un grand déluge approche. Nous allons construire une arche pour recueillir les innocents.
Mère! Qu'est-ce qu'il y a? Là! Les serpents viennent aussi?
Tout ce qui rampe, tout ce qui glisse.
Il t'a choisi pour une raison, Noé.
Ça commence.
On fait un beau pont avec les sujets qu'on avait également vendredi dernier. On est dans la thématique ce soir des énigmes de l'histoire. Et pour commencer, tu veux nous parler de fouilles à l'Arche de Noé.
Oui, exact. Puis je trouvais que ça tombait bien également parce que la semaine prochaine, c'est la Semaine Sainte pour les chrétiens du monde entier.
Et oui.
Donc, c'est une espèce de toujours un moment de réflexion pour retourner ou revisiter ces grands événements qui ont marqué, bien sûr, le christianisme pour ce qui est de la Semaine Sainte et la Semaine Sainte, pardon, et de l'arrestation, la crucifixion et surtout la résurrection du Christ qui sont des dogmes de l'Église catholique. Mais en même temps, ça nous permet un peu de revisiter toutes les grandes histoires qui sont un peu liées dans un premier temps au Nouveau Testament, mais à l'Ancien Testament, qui est en grande partie la Torah juive, donc à l'origine du judaïsme. Et l'histoire dont on parle, cette nouvelle, elle est sortie il y a quelques jours. On veut mener des recherches à l'Arche de Noé. Alors là, évidemment, les gens qui nous écoutent vont dire « Oui, mais faudrait-il dans un premier temps la trouver ?» Et en fait, quand on parle de l'Arche de Noé ici, on parle de l'Arche dite de Durupinard, qui se trouve là à une trentaine de kilomètres du mont Ararat. Donc, je vais essayer de situer un peu les auditeurs, parce que ça peut paraître un peu confus toute cette histoire-là. Il faut savoir que dans les textes de la Genèse, dans la Torah, les textes fondateurs de la Torah, donc dans les textes de la Genèse, on retrouve la fameuse légende ou l'épopée de Noé. Donc, Dieu décide de détruire le monde et il va choisir un homme bon qui est Noé et pour qu'il construise une arche dans laquelle il va amener sa famille mais également un couple de toutes les espèces animales qui vivent pour pouvoir les sauver d'un déluge et recommencer un nouveau peuplement du monde. Donc évidemment, on a bien compris que c'est un mythe. Là, on ne peut pas construire une arche et mettre dedans tous les animaux de la création. Là, donc, ça tiendrait pas. Et ensuite, on ne voit pas comment Noé aurait pu faire entrer des kangourous, là, alors que les kangourous, c'est une espèce endémique de l'Australie. Donc, on comprend qu'on a un problème ici, mais il faut quand même
l'illusion du monde de paix, Christian, hein, de que ça n'existe pas. Il y a des animaux qui ne se seraient pas super bien entendus ensemble non plus.
Ouais, c'est ça. J'aurais pas voulu changer la litière de tous ces animaux. Mais il faut quand même savoir que cette histoire-là de Noé, hein, telle qu'on la retrouve dans la Genèse, c'est une histoire qui est un mythe fondateur de plein de sociétés. On en retrouve même probablement lié au christianisme, au début du christianisme. On retrouve des légendes comme ça qui vont s'intercaler à travers les légendes autochtones des premières nations. Mais dans le monde entier. antique, hein, cette légende-là de Noé, elle est présente dans d'autres, chez d'autres peuples, hein, l'idée d'une espèce de grand déluge ou une destruction totale qui est le résultat de la volonté des dieux pour recréer le monde. Et le récit le plus proche que l'on a d'ailleurs de celui de Noé dans la Genèse nous apparaît comme étant un récit d'une épopée sumérienne qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh.
Oui.
Où là aussi, Dieu décide, en fait, les dieux décident de détruire le monde. Et puis bon, c'est comme ça que le monde va se repeupler. Et on croit que la version de la Genèse est essentiellement une réplique, en fait, un copie-collée, en fait, de la légende de Sumer avec l'épopée d'Enkidu et bon, et tout le reste. Donc, dans cette histoire-là, les textes bibliques, les textes de la Torah disent, ben voilà, l'arche de Noé, pardon, s'est arrêtée parce que j'ai failli faire le lapsus de dire l'arche d'alliance,
mais ça c'est la semaine passée.
Ouais, mais en fait c'est deux objets tout à fait différents. Hein.
Oui.
Donc l'arche d'alliance est un coffret dans lequel Moïse avait mis les 10 commandements, alors que l'arche de Noé c'est un grand navire de bois qui transportait les animaux. Donc les textes de la Bible nous disent, voilà, après le déluge, donc après avoir navigué pendant 40 jours, 40 nuits, l'arche va s'arrêter sur les montagnes, l'arche va s'arrêter, il va y avoir un déluge, je dis, il va naviguer plus longtemps que ça, le déluge va durer 40 jours et 40 nuits, et là pendant des mois, hein, le navire va flotter sur les eaux qui ont envahi le monde, et après plusieurs mois, le navire va s'arrêter, et là le texte nous dit, sur les montagnes d'Ararat. Alors là, évidemment, il est vrai qu'il existe un mont qui est situé dans l'est de la Turquie, qui s'appelle le mont Ararat. Et là, on fait rapidement le rapprochement entre le mont Ararat et les monts Ararat mentionnés dans la Genèse. Mais il faut savoir que les monts Ararat, à l'époque, hein, donc parce que bon. À quel moment s'est produit ce grand déluge? À quel moment la Bible situe le grand déluge? On parle grosso modo là il y a à peu près 5000 ans.
Okay.
Et au moment où ce déluge va se produire, les montagnes d'Ararat forment, en fait, c'est toute une chaîne de montagnes qu'on retrouve en Arménie. Donc, c'est un peu une erreur que de réduire les montagnes d'Ararat évoquées dans la Genèse à une seule et unique montagne qui est le mont Ararat en Turquie. Hein, donc, on comprend qu'ici, on fait un peu un raccourci. Mais néanmoins, depuis le 19e siècle, beaucoup de gens, des explorateurs, ont été sur le mont Ararat en Turquie dans l'espoir de trouver l'arche de Noé. Hein. Et moi-même, j'y suis allé, j'ai gravi la montagne, qui fait quand même 5000, un petit peu plus de 5000 mètres.
Ça va prendre combien de temps à monter, par curiosité? Gros,
nous, ça nous a pris 2 journées monter au sommet de l'Ararat.
Quand même.
Donc,
okay.
Il y a un moment de... On grimpe une partie, on passe la nuit sur la montagne, et ensuite, on atteint le sommet le lendemain. C'est une montagne qui est assez élevée, là, c'est quand même 5000 mètres, mais c'est à la portée de toute bonne personne qui est physiquement en bonne santé. Hein. On n'est pas sur le mont Everest, on n'a pas d'escalade, de glacier particulier.
Ou d'oxygénation à gérer.
Voilà,
okay.
C'est sûr qu'à 5000 mètres d'altitude, quand on fait des efforts physiques, on le ressent davantage, mais c'est une montagne qui se monte bien, c'est-à-dire que la pente pour arriver au sommet est relativement facile, et une personne qui est en bonne santé peut atteindre le mont Ararat, et chaque année, hein, des gens vont au sommet de l'Ararat, soit par plaisir, ou soit parce qu'ils espèrent un peu trouver l'arche de Noé. Et moi, j'y suis allé avec des guides. On a exploré l'endroit où on dit que l'arche aurait pu être sur la montagne, parce qu'il y a toutes sortes de légendes qui circulent. Des gens l'auraient vu dans un glacier. Lors d'été particulièrement chaud, un bout du bateau aurait émergé de la glace. Et quand on parle de ces glaciers, on parle d'un glacier en particulier qu'on appelle le glacier Perrot. Donc, j'ai passé une journée sur ce glacier. Et je dois t'avouer que j'ai rien trouvé qui aurait pu me laisser croire que l'arche de Noé serait là. Mais bon.
Okay.
Donc ça c'est d'un premier temps, c'est le mont Ararat et son arche de Noé. Mais l'arche de Noé dont on parle ce soir n'est pas celle-là. Il faut savoir qu'en 1959, on avait un capitaine qui s'appelait Ilan Duripinard qui travaillait pour l'OTAN et il avait été chargé de photographier toute la région du mont Ararat. Hein, il faut savoir qu'on est quand même tout près de la frontière de l'Iran. Là. Donc, on voulait s'assurer que les frontières étaient... On a l'Iran, l'Irak, on a la Turquie, on a plusieurs... La Russie également au nord. Donc, on a plusieurs pays qui se côtoient. Donc, on voulait avoir des photographies aériennes de toute cette région-là du monde. Et ce Yann Durupinard, donc, alors qu'il survole ce secteur-là, il prend une série de photographies, et dans une vallée escarpée, on voit apparaître sur l'une des photographies une forme qui, du vu du haut des airs, ressemble étrangement à un bateau. Hein. Et là, évidemment, ça c'était en 1959, la photo est publiée dans le Life Magazine en 1960, avec la question, hein, est-ce l'arche, avec un grand point d'interrogation. Bon, évidemment, plein de gens se sont rendus à cet endroit-là, qui est à peu près une trentaine de kilomètres du mont Ararat. C'est une vallée, je dis c'est une vallée, mais on est quand même au-dessus du niveau de la mer. On est à peu près, grosso modo, à 1700-1900 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et on a donc cette grande forme qui est un gros rocher, qui ressemble vaguement à un bateau, et qui fait à peu près les dimensions que l'arche de Noé avait ou est mentionnée dans la Bible. Hein. On nous dit, voilà, le navire aura 300 coudées de long. Et effectivement, 300 coudées, ben ça correspond à peu près à la dimension de ce grand navire-là, qui est fait à peu près en pied, là, c'est presque 600 pieds de longueur.
OK, c'est ça, parce qu'en coudée, c'est-tu pour eux l'équivalent qui était d'un pied ou un mètre?
Une coudée, c'était, on est plus proche du demi-mètre. Hein, okay. C'était comme de la pointe des doigts jusqu'au coude. Là,
hein. OK.
Donc, c'est la dimension à peu près de ce navire-là qui correspond grosso modo aux mesures qui étaient données dans la Bible. Mais bon, pour y être allé... je me suis promené un peu sur ce rocher-là. J'ai même, je sais pas si je peux le dire fort, là, mais
est-ce que tu as essayé de revenir avec un petit morceau?
J'en ai un qui est dans mes curios. J'ai ramené un morceau. Je n'ai jamais eu de doute en voyant ça que c'était une formation géologique naturelle.
Okay.
Parce que quand on voit l'endroit où elle se trouve, on voit que ce fameux bateau, en fait, est comme le dessus de plusieurs couches d'épaisseur. On dirait que c'est comme si on avait mis plusieurs crêpes l'une par-dessus l'autre, et la dernière crêpe a cette forme-là. Mais on voit qu'il y a d'autres couches, en dessous, et qui sont vides. Et comme elle est dans une vallée, ben évidemment, il y a eu des écoulements au fil des millénaires et des écoulements de boue, parce que le rocher en question m'apparaît être une coulée de boue qui s'est pétrifiée avec le temps. Là.
Okay.
Là, ben évidemment, comme ça ressemble à un bateau, puis bon, si les gens veulent y croire, moi j'ai pas de problème avec ça, mais je sais que dans les années 70-80, plein de gens sont allés là avec des scans à pénétration, puis ils ont trouvé des formes, puis ben, tout ça, c'est un peu un biais de confirmation, où c'est un peu des pareidolies, hein. Ton radar détecte des formes, puis là, ben tu veux bien y voir une chambre, tu veux y voir un mur, tu veux y voir une pièce, une encre ou n'importe quoi. Bon, ben là, tu vois ce que tu veux. Mais jusqu'à maintenant, rien ne permet de croire que cette forme-là soit autre chose qu'une simple coulée de boue qui ait donné cette curiosité, là, qui ressemble à... Cette curiosité, si elle avait été ailleurs dans le monde, et il y en a ailleurs dans le monde, j'en ai vu, moi, sur des cartes aériennes, il y en a notamment en Australie, non. Mais personne ne s'y intéresse. C'est sans aucun doute le fait que cette forme-là soit si près du mont Ararat qui est évoqué, ou les monts Ararat qui sont évoqués dans la Bible. Je pense que c'est cette proximité qui fait qu'on s'y intéresse. Si elle était ailleurs dans le monde, aux États-Unis ou en Europe,
on n'en ferait même pas le même lien.
On l'évoquerait pas du tout. Il faut savoir aussi qu'en 1987, le gouvernement de Turquie a décrété que cet endroit-là serait le parc de l'Arche de Noé. C'est assez drôle parce que dans un livre que j'ai écrit il y a quelques années qui s'appelle à la recherche des reliques saintes, j'ai consacré un chapitre à ça et j'explique quand je suis arrivé là au parc de l'Arche de Noé où il y a cette fameuse forme, la fameuse l'Arche du Durupinard, là. Et quand je suis arrivé là, tu sais, ma première pensée, ça a été de dire, si c'était aux États-Unis, c'est sûr qu'on aurait un cirque aux côtés, on aurait un musée, on aurait un McDonald's, oh oui. Un Burger King, tu sais, tu comprends? Et quand tu arrives à ce fameux parc de l'Arche de Noé, ben écoute, t'arrives là, il y a strictement rien, là. C'est zéro, là. Il y a une petite route, là, qui est même pas pavée, là, une route en terre, là, qui t'amène un petit pavillon. Et écoute, c'est un pavillon là, très rustique.
Est-ce que c'est quand même considéré, Christian, comme un lieu de pèlerinage ou très touristique, même s'il n'y a rien autour?
Non.
Même pas?
Ben,
hein?
je, peut, touristique, je ne sais pas, parce que c'est très éloigné. Hein. T'es au milieu du désert, t'es loin. La ville la plus près, là, de mémoire, là, c'est Dogubayazit, et qui est quand même à une trentaine de kilomètres de là. C'est vraiment le milieu de nulle part. Okay. Tu sais, je vois mal comment on pourrait développer une quelconque. Il y a pas de ville aux alentours. T'es vraiment au milieu de nulle part. Et il y a une ville, Hilar ou quelque chose comme ça, qui est à quelques kilomètres. Mais tu restes que t'es quand même un peu dans le désert. Et là, t'arrives là, il y a ce petit kiosque un peu qui a aucune commodité finalement. Tu sais, il y a pas de restaurant, il y a pas rien. T'arrives là, c'est un kiosque en bois. Il y avait un homme qui était là, qui se présentait lui-même comme le gardien de l'arche.
Ah, ok.
Un vieux monsieur qui avait plein d'histoires croustillantes à raconter parce que lui, il est là depuis. Il habite le village voisin, puis il a toujours eu un grand intérêt pour cet endroit-là. Fait qu'il y a toutes sortes de bonnes histoires à raconter à propos de ça. Sorte d'anecdote, mais tu sais, il y a pas de commodité, il y a pas rien. Et là, t'es là et tu sors de ce kiosque-là. Il y a comme une espèce de belvédère. Et là, tu vois cette forme rocheuse qui est plus basse, qui est à quelques centaines de mètres plus bas. Et si t'es un peu en forme, tu peux descendre dans cette vallée jusqu'à aller sur cette forme rocheuse. Il y a, je sais pas si ça a changé depuis, mais lors de mon passage, il y a pas de cordon de sécurité, il y a rien, il y a pas d'agent, il y a rien là. Tu sais, tu peux arriver là, tu montes là-dessus, il y a rien là. T'es tout seul là. Je veux dire. Bon, et évidemment, j'ai pris un petit morceau là de parce que je voulais le ramener, mais bon. J'imagine que je suis pas le seul à avoir fait ça.
Non, bref, puis cette forme ça a pas sonné aux douanes, t'es correct.
Non, ça a pas sonné aux douanes. Puis je me rappelle, il y avait des enfants aussi qui s'amusaient sur la forme rocheuse en même temps qu'ils étaient là. Et puis, bon, c'est très impressionnant quand on est dessus, on se rend compte, c'est très, très gros. Les photos ne traduisent pas exactement la dimension de la chose, mais c'est quand même très, très gros. Et tout ça pour dire que cette forme rocheuse, jusqu'à maintenant, rien, toutes les études qui ont été menées n'ont jamais permis d'établir que c'était autre chose qu'une simple coulée de boue qui s'était solidifiée et pétrifiée avec le temps. Mais là, voilà qu'une organisation, qui est une organisation religieuse, il faut quand même le dire, et qui préconise la création. Donc, c'est souvent ça, les organisations religieuses qui ont beaucoup d'intérêt dans cette histoire-là. Ce sont des organisations qui sont des créationnistes. Donc, mm-hmm. Dieu a créé le monde. Et on comprend bien que dans cette optique religieuse, si on réussissait à démontrer que cet objet est vraiment l'arche de Noé, ben on accrédite en même temps non seulement l'idée de Noé, mais également l'idée de la création, Dieu et tout le reste. Donc cette organisation qui s'appelle Noah's Ark Scan, on fait une présentation et là ils ont dit qu'ils allaient mener des recherches. Ce qu'ils veulent, c'est prendre des échantillons, faire des carottages dans la forme en question. Ils veulent travailler avec une université d'Istanbul pour essayer de déterminer si dans ce sol, dans cette boue, parce que ça, c'est vraiment comme une roche très, très dure. On peut s'imaginer le meilleur moyen que je pourrais te donner une image. On a tous vu, par exemple, après une inondation, tu as des surfaces qui vont avoir été amollies et devenues de la boue. Mais si cette boue-là est soumise au soleil pendant des années,
ça
devient dur comme la roche.
Craquelle aussi, c'est asséché.
C'est un peu ça. C'est à ça que ça ressemble. Okay. Ça ressemble à de la boue là cimentée. C'est le meilleur mot que je pourrais te donner. Donc, ils veulent faire des carottages à travers ça pour voir s'il n'y a pas au milieu de cette boue, de cette terre ou de cette roche, il n'y aurait pas la présence de bois fossilisé. Et là, ce qui pourrait démontrer que la forme n'est pas simplement qu'une forme en pierre, mais qu'il y aurait du bois à l'intérieur. Ce qui, à mon avis, aussi est excessivement litigieux parce que, pour plusieurs raisons, là, je veux pas péter à ballon à personne, mais quand on y est allé, quand on a vu l'endroit, ça se trouve au fond d'une vallée, on sait que la mer Noire, qui se trouve à peu près à 300 km de là, à un moment donné, a débordé et a tout envahi le paysage il y a des milliers d'années. Et il n'est pas étonnant de trouver dans le sol de cette région-là des traces de mollusques et de vie marine, parce qu'il y a eu cet énorme débordement. Et on croit même, d'ailleurs, les historiens pensent que ce grand débordement de la mer Noire pourrait être en partie lié à la légende du grand déluge.
Okay. Hein,
parce que on sait de manière géologique qu'il n'y a pas eu un déluge à la surface de la planète. Hein, le déluge universel, comme il est décrit dans la Genèse, n'a jamais eu lieu. Mais faut faire attention, parce que quand ces gens-là disent le monde a été envahi par l'eau, ben c'est le monde tel qu'ils le connaissaient, c'était leur monde, hein, et leur monde souvent s'arrêtait à une certaine frontière, c'était ou la chaîne montagneuse au nord ou les chaînes montagneuses au sud, c'était la fin de leur monde. Donc quand ils disent le monde a été envahi par l'eau,
c'est leur secteur,
c'est leur secteur, c'est leur environnement, ils vivaient là, c'était leur espace. Donc on croit que il y a eu probablement de grands déluges locaux, surtout qu'on se trouve entre l'Euphrate et le Tigre, donc des rivières qui ont été très importantes là dans l'évolution des sociétés dans cette région-là du monde, notamment à Sumer. Donc on croit que des grands débordements de l'Euphrate et du Tigre, et plus tardivement de la mer Noire, ont pu entretenir des légendes de grands déluges qui pourraient être associées à la légende de Noé. Mais bon, comme on sait déjà qu'il y a dans le limon de ces terres-là, il y a déjà des traces de mollusques et de vie marine de plusieurs milliers d'années, on peut s'imaginer que dans ces grandes coulées, on est entraîné également du bois, hein, des arbres ou n'importe quoi, on peut être entraîné dans ces coulées. Fait que moi, si quelqu'un me dit on a fait un carottage, puis on a trouvé un bout de bois fossilisé qui date de 5 ou 6 000 ans, ben il m'en faudra davantage pour croire que c'est l'arche de Noé, tu comprends? Parce que bon, que tu me dises qu'une coulée de lave a entraîné sur son chemin du bois, puis tu as retrouvé le bois après, ça me prouve pas que c'était un bateau qui contenait tous les animaux de la création.
Il y a justement une mer et monde entre les deux.
Oui, c'est ça. Mais bon, je trouvais que c'était une nouvelle amusante, parce qu'on est juste à la veille de la Semaine Sainte. Et c'est vrai que ces histoires-là de grandes reliques religieuses, que ce soit l'Arche de Noé, l'Arche d'Alliance, c'est toujours des trucs qui font un peu fantasmer. Et je pense que c'est pas demain matin, la veille, où on va voir disparaître toutes ces rumeurs concernant l'Arche de Noé. Oui, qui est un sujet qui est tout à fait fascinant quand même. Quand on y pense, essayer de retrouver l'image, essayer de retrouver ce grand navire qui a marqué là, toute sorte de légendes. Moi, je pense qu'il y a probablement eu plusieurs arches de Noé. Hein. Je pense que s'il y a eu des déluges locaux, ben, je pense que plusieurs personnes ont probablement dû construire des bateaux pour essayer de sauver leur famille et sauver leurs biens. Hein. Puis quand on parle de leurs biens, je parle même de leurs animaux, hein, parce que ces gens-là étaient faisait corps avec les animaux, le cheptel. Hein. C'est assez amusant d'ailleurs, parce que quand j'étais dans cette région-là, ça m'a beaucoup frappé. Hein. Un des souvenirs que je garde, c'est de voir à quel point les gens dans cette région-là du monde, on est tout près des montagnes d'Arménie. Là. C'est vraiment une zone très, très, très désertique. Les gens étaient sympathiques, les gens étaient gentils et les gens étaient simples. Hein.
Okay.
Ces gens-là, oui, ils portaient des jeans, ils portaient des t-shirts, mais ils amenaient les animaux au champ comme leurs ancêtres le faisaient il y a 500 ans ou 1000 ans. Hein, le mode de vie est resté excessivement là,
similaire.
Un mode de vie similaire. Ils vivent dans des maisons qui sont faites de briques, qui sont faites de terre cuite, avec des toits en chaume. C'est vraiment un mode de vie là. T'es vraiment plongé dans une autre époque. Et la seule chose qui te fait réaliser que tu es au 21e siècle ou au 20e siècle, c'est que tu vois dans leurs vêtements, tu dis, ben OK, on est en 2020 ou 2025 ou 2012, moi, quand j'y étais. Puis le vêtement traduisait ça. Mais en dehors de ça, si tu te fermais, si tu rencontrais ces gens-là au champ, ils amenaient les brebis, ils amenaient les moutons au champ, tout ça, et t'avais l'impression que c'était un mode de vie qui était déjà vieux de 1000 ou de 2000 ans. Et c'est pour ça, je pense, que toute cette idée de l'Arche de Noé dans cette région-là du monde va continuer de faire fantasmer beaucoup.
T'sais. Historiquement parlant, est-ce que c'est vraiment le consensus de tout le monde va dire que c'est là que se trouverait l'Arche de Noé? Ou il y a eu des endroits alternatifs, justement?
Ben, en fait, t'as plusieurs écoles de pensée. Hein. Bon, l'Arche de Noé, si on se réfère au récit biblique, le récit biblique est assez précis. Jean, quand il mentionne l'arche s'est arrêtée sur les montagnes d'Arménie, hein, après des mois de navigation, avant que les eaux se retirent, les montagnes d'Arménie, ça, il n'y a pas de doute.
Okay.
C'est les montagnes d'Ararat, il n'y a pas de doute. C'est une chaîne de montagnes de l'Arménie qui se trouve à la frontière de l'Iran et qui se trouve à la frontière de l'Iran et de la Turquie.
Okay.
Donc, c'est sûr que si une arche a existé, puis si elle s'est arrêtée sur les montagnes d'Ararat, c'est là. C'est pas ailleurs, c'est pas en France, c'est pas en Australie, c'est là. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le récit est authentique et est-ce que cette arche fait réellement référence à une arche unique ou à une espèce de souvenir collectif de déluges locaux où des gens ont essayé d'échapper à la destruction en construisant des bateaux dans l'espoir d'échapper à cette eau qui est envahissante. Mais bon, je pense que même si le récit avait le moindrement un fondement historique. Et faut faire attention ici parce que c'est pas le travail de l'histoire, tu comprends, ce n'est pas le travail des historiens et des archéologues de prouver l'existence de Dieu ou du non-Dieu, tu comprends, l'aspect divin du récit ne relève pas de l'histoire, il relève de la foi. Maintenant, les archéologues et les historiens, c'est sûr que quand on leur pose la question, ils vont dire, ben voilà, il y a eu des déluges locaux, il y a probablement eu des gens qui ont essayé d'échapper à ça avec des bateaux. Maintenant, est-ce que si ces déluges-là ont eu lieu il y a 5000 ans, est-ce qu'on peut, considérant de quelle façon était la fabrication des navires, je pense que la possibilité de retrouver le moindre vestige de l'un de ces navires est excessivement ténue. Hein. On a bien retrouvé dans des conditions très particulières des vestiges de galères romaines, ou des navires qui datent de l'époque du Christ. Hein. Je pense, par exemple, dans le lac Tibériade, on a retrouvé il y a quelques années un navire qu'on a présenté comme étant le navire peut-être de Pierre ou des apôtres qui pêchaient sur le Tibériade. Bon, là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai qu'on a trouvé...
C'est sensationnaliste, tu le dis.
Ouais, c'est ça, on aime bien tirer.
Wow.
Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a trouvé un navire qui est dans le Tibériade, qui était, lorsque les eaux s'étaient retirées, il est comme coincé dans la vase et qui date à peu près de l'époque du Christ. Donc, je peux pas dire que c'est celui-là, mais si le Christ a réellement pêché avec les apôtres sur les Tibériades.
C'était dans quelque chose du genre.
C'est un navire probablement semblable. Mais, c'est vraiment des conditions exceptionnelles qui font que ces navires se sont conservés, hein. Comme les galères romaines, elles ont coulé, elles se sont enfoncées dans le limon soit d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, et puis elles ont été conservées de cette manière-là. Mais, comme ça, un bateau, d'abord, un bateau sur une montagne, c'est un peu invraisemblable, là, mais bon, peu importe comment le navire serait arrivé sur place, la possibilité de retrouver des vestiges semble excessivement ténue, surtout si c'est un navire qui a plus de 5000 ans. Là.
C'est fascinant, notre sujet, la thématique énigme de l'histoire, parce qu'on rebrasse toutes les cartes à chaque fois qu'il y a une nouvelle dans le genre qui sort. Et au retour de la pause, c'est un petit peu ce que j'ai vécu dans les derniers jours. On a vu tous passer cette nouvelle-là sur les réseaux sociaux par rapport aux grandes pyramides, les fameuses grandes pyramides. Mais moi, dès que ça passe mon radar de Facebook, Instagram, j'ai toujours un petit doute, fait que je suis contente d'avoir quelqu'un comme toi pour en parler.
Il faut que notre bullshitomètre soit clean dans le fond, là, hein? Attention, dès qu'il y a question de pyramide, là, c'est facile de s'emballer.
Et c'est là que je me tourne vers toi, parce qu'après la pause, est-ce qu'il y a des souterrains, des villes, des civilisations cachées sous les pyramides? On en parle.
Oui, absolument.
Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille. Radio X.
De retour à l'émission, Christian, le gros sujet de la semaine, c'était d'avoir retrouvé, est-ce que c'est des sous-sols? Est-ce que ce sont des villes souterraines sous les grandes pyramides?
Une ville, littéralement, une ville souterraine. En fait, la nouvelle est il y a quelques jours, donc on a trois individus, Corrado Malanga, Armando May et Filippo Bondi, qui ont fait un point de presse en Italie, et là ils ont révélé qu'ils avaient, à partir de travaux menés en utilisant des scans de pénétration par profondeur qu'on appelle des radars de synthèse d'ouverture ou des RSO, donc ce sont des images qui sont transmises par les satellites et qui montrent le sous-sol de certaines régions, là ils ont une pénétration de sol, ils en sont arrivés à la conclusion qu'il y avait sous le plateau de Gizeh. Le plateau de Gizeh, c'est le plateau qui se trouve tout juste à côté du Caire. Hein, dès qu'on visite l'Égypte, dès que tu sors du Caire, pratiquement la frontière du Caire, on a ce grand plateau dans le désert sur la rive ouest du Nil.
Oui.
Et il y a trois pyramides qui sont sur le plateau. La pyramide du père, du fils et du petit-fils. Hein, donc,
trois générations.
Ouais, donc, on a la pyramide de Khéops, qu'on appelle aussi souvent la Grande Pyramide. Là, j'utilise les noms grecs, là, mais le véritable nom de Khéops en égyptien, c'est à Khoufou. Mais bon, comme les pyramides sont connues sous leur nom grec, donc on a la pyramide de Khéops, la pyramide de son fils Khéphren, et ensuite du petit-fils Mykérinos. Mais souvent, quand les gens parlent de pyramide, c'est toujours les mêmes trois qu'on voit, ce qui donne l'impression aux gens qu'il y a trois pyramides en Égypte. Et alors qu'en réalité, il y en a entre 80, ben, il y en a qui sont très écroulés, là, mais il y en a d'autres qui sont très secondaires, mais il y a grosso modo entre 80 et 110 pyramides en Égypte. Là. Il n'y a pas que les trois qui sont sur le plateau de Gizeh.
Qu'est-ce qui fait qu'elles se distinguent, à part la proximité de la ville? Est-ce que ce sont les plus grosses, les plus intactes, les plus accessibles?
Tout à fait. Donc, okay. les deux plus grandes pyramides d'Égypte, ce sont celles de Khéops et de Khéphren.
Okay.
Donc, celle de Khéops, originalement, mesurait 147 mètres. C'est la plus grande de toutes les pyramides. Et pendant des siècles, hein, jusqu'au 18e siècle, la pyramide de Khéops était la structure la plus haute jamais construite par l'homme. Donc, et c'est la dernière grande merveille du monde antique qui nous soit parvenue.
Okay.
Et elle fait fantasmer, évidemment, parce que sa construction semble impossible, tellement c'est gigantesque.
Et remise en question, hein?
Et souvent remise en question. C'est une construction qui a duré entre 20 et 25 ans. Et là, c'est en essayant de jongler avec les chiffres et tout ça, on sait que si tous les blocs à l'intérieur étaient bien taillés, bien sculptés, c'est quand même 2 500 000 blocs de pierre qui sont assemblés pour construire cette gigantesque structure. La pyramide juste à côté, celle de Khéphren, qui était de 137 mètres à l'origine, donc 10 mètres moins haute que celle de Khéops. Mais et puis évidemment, il y a tout le complexe funéraire avec le grand sphinx qui est devant, tout ça.
Ouais.
Donc, ça fait fantasmer. Et là, voilà que nos trois chercheurs nous disent qu'en utilisant des photographies qui montraient le sous-sol du plateau de Gizeh, ils ont découvert que à peu près devant la pyramide de Khéphren, donc la deuxième en importance du plateau, ils auraient trouvé, semble-t-il, des espèces de cavités. En fait, ce sont des grands puits gigantesques qui descendent jusqu'à quelques 650 mètres de profondeur. Ces grands puits qui font des dizaines et des dizaines de mètres de diamètre seraient entourés comme d'un chemin en spirale qui descend. Et en dessous de ça, il y aurait des structures carrées qui font à peu près 80 mètres de côté. C'est si gigantesque, évidemment, on parle ici d'une ville. Grand comme ça, là, c'est pas un tombeau, c'est clairement une ville sous la pyramide de Khéphren. Je le mentionne, deuxième plus importante pyramide du plateau de Gizeh. Et là, évidemment, ça fait fantasmer. On a toute une génération de gens, et probablement pas beaucoup parmi nos auditeurs, qui sont des gens qui écoutent des émissions genre Nos ancêtres, les extraterrestres,
oui.
Et qui se posent des questions qui sont tout à fait légitimes. Hein. Il y a des questions à propos des pyramides. Comment on a monté les pyramides? Comment les chantiers ont été organisés? Si on a utilisé une rampe, a-t-on utilisé une rampe ou plusieurs rampes, et bon, est-ce que on amenait les blocs de l'intérieur ou de l'... Il y a toutes sortes de... Même si aujourd'hui, les archéologues et les historiens n'introduisent pas dans l'équation une quelconque origine exotique, là, pas d'Atlante, pas d'extraterrestre, les archéologues et les historiens reconnaissent néanmoins qu'il y a plusieurs éléments à propos de la construction des pyramides, et principalement de la pyramide de Khéops, qui nous échappent encore. On connaît pas tous les détails de la construction. Mais de là à penser qu'il y aurait une ville sous le plateau de Gizeh, là, il y a quand même loin de la coupe aux lèvres. Et qui plus est, quand on commence à gratter un peu cette histoire-là, qui a fait fantasmer, hein, ça a fait le buzz sur les médias sociaux.
À 100%. Hein,
veut dire, on tombait continuellement sur cette histoire-là de la ville sous la pyramide. Il faut savoir que nos trois scientifiques en question qui ont fait ces annonces-là, ce sont des gens, certains d'entre eux, sont des gens qui ont été associés à des universités. Hein, notamment, je pense, l'un d'entre eux était professeur de chimie à l'université de Pise. Mais il faut savoir que leur travail n'a rien de n'a rien d'universitaire. C'est un travail qu'ils ont fait ensemble, qui n'est pas cautionné par aucune université, qui n'a pas été financé par aucun cadre de recherche. Ces gens-là n'avaient même pas l'aval des autorités égyptiennes pour mener une investigation comme celle-là. Mais il faut dire que c'était une investigation non-invasive. Ils n'ont pas eu besoin d'aller sur le terrain. Là. Ils ont fait comme toi et moi, sont allés sur un peu comme on fait quand on va sur Google Maps puis on cherche des photos. Là. C'est un peu ce qu'ils ont fait, sauf qu'ils se sont branchés sur un satellite qui transmettait des images par pénétration du sol.
Est-ce qu'ils peuvent avoir des représailles de ça, de justement par demander de permis?
Non.
Parce que l'Égypte est quand même sévère, me semble, sur les fouilles.
Oui, mais ils n'ont pas fait de fouilles. C'est pour ça que je te dis, c'est non-invasif. Ils ont regardé, sont allés sur Internet, sont allés chercher des photos. Il faut savoir que si cette histoire-là fait fantasmer les amateurs, parce que dès qu'on mentionne les pyramides, il y a comme tout un univers magique autour de ça. Mais cette histoire-là, là, mettons les choses au clair, ça n'intéresse pas les historiens, ça n'intéresse pas les archéologues, parce que pour eux, tout ça, c'est de la foutaise.
Okay.
C'est de la foutaise pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pas comme ça que ça fonctionne, l'archéologie, là. Je veux dire, si tu fais pas une conférence de presse sur YouTube, puis tu mets un document, là, bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Hein? D'habitude, non.
La science, il faut que les travaux soient cautionnés par d'autres chercheurs, il y a une publication, puis on est soumis à des pairs, voir la recherche qui a été faite. Ensuite de ça, ces gens-là, ce sont des individus qui, même s'ils brandissent devant le public en disant « oui, moi, je suis professeur de chimie à l'université de Pise », il faut savoir que ces gens-là sont surtout connus parce que ce sont des adeptes d'archéologie alternative. Quand je parle de recherche d'archéologie alternative, je parle le matériel qu'on retrouve dans nos ancêtres, les extraterrestres. Là. Ils croient à une super civilisation, les Atlantes, les extraterrestres et tout le reste. Là.
Je vais te dire, ça me fait penser à quoi dans ma tête? Là? Ça fait holistique un peu. C'est comme alternatif. Là.
Voilà, c'est ça. Donc, on se part d'un manteau hein, de science avec un discours un peu scientifique, des belles photos, des beaux dessins avec des grands mots qu'on a quasiment besoin du petit Larousse pour comprendre.
Ouais.
Et ces gens-là se partent en disant j'étais à l'université. Mais c'est une recherche qu'ils ont menée dans leur sous-sol.
Non cautionnée.
Non cautionnée, puis tout ça. Et là, ils nous sortent leurs histoires. Et ensuite de ça, quand on interroge des spécialistes qui utilisent de manière professionnelle ces fameux radars à synthèse d'ouverture, les RSO, ces gens-là sont scandalisés parce qu'ils sont tous unanimes à dire que un système comme celui-là ne peut pas pénétrer à plus de quelques mètres sous la surface du sol. Donc, quand ces types-là nous disent qu'ils ont des structures qui descendent jusqu'à 648 mètres ou 650 mètres sous la surface du sol, avec des structures en cubes en dessous qui font 80 mètres de diamètre, on se dit, ces gens-là ont vraiment fumé du bon matériel. Là. Ils ont passé à la SQDC avant, là, c'est certain. Parce que les radars à pénétration ne vont pas aussi loin que ça dans le sol. Tu peux pas déterminer ça. Donc, comment ils arrivent à ces conclusions-là? Quel type d'image ils ont utilisé? Visiblement, ils ont eu de la difficulté à comprendre les images qu'ils voyaient ou les ont mal interprétées ou les ont interprétées en fonction de ce qu'ils voulaient bien croire. Mais il faut savoir que cette histoire-là, si elle fait fantasmer les amateurs d'archéologie fiction, ça repose sur strictement rien. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que le plateau de Gizeh nous a révélé tous ses secrets et que toutes les pyramides n'ont plus de secrets à nous révéler. C'est pas ça, là. Mais cette histoire-là, ça, c'est de la foutaise. Et il faut savoir que quand on mène, il y a actuellement des gens, des archéologues, des chantiers qui travaillent sur le plateau de Gizeh ou qui travaillent aux pyramides et qui sont unanimes à dire qu'il y a encore des choses à découvrir, mais certainement pas une ville cachée sous la pyramide de Khéphren.
Ben, pourquoi avoir voulu vivre sous terre? Pourquoi vous vivre aussi sous des chambres funéraires, à part si on pense à l'idée de la réincarnation? Puis encore là, on est dans le mystique, là, on n'est pas dans du concret.
Ouais, puis on mélange plusieurs éléments ici. Tu sais, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai que les premières tombes en Égypte, là, je ne vais pas faire un cours d'égyptologie, là, mais les premières tombes en Égypte, avant d'arriver aux pyramides, hein, parce que les pyramides apparaissent là, avec la 4e dynastie, 3e, 4e dynastie, mais avant ça, les tombes étaient simplement des mastabas qui veut dire en français un mastaba, c'est un mot arabe, veut dire un banc. En fait, c'est une structure en pierre assez peu élevée Et la tombe était creusée dans le sol, et c'est là que le défunt était inhumé.
Okay.
Donc, une tombe souterraine. Et puis, ensuite de ça, c'est toujours un peu l'histoire du voisin gonflable. Je veux que ma tombe soit plus grosse que celle du voisin. Puis là, ben, à un moment donné, arrive un certain Joser. Et Joser, lui, demande à son architecte, dit, moi, je veux une tombe qui est plus belle que les autres, puis plus grosse. Fait que Joser dit, au lieu de prendre, son architecte lui dit, au lieu de prendre un qu'un mastabon, on va en empiler 3 ou 4, un par-dessus l'autre. Et finalement, on va déboucher sur une première pyramide à degrés qu'on appelle la pyramide de Djoser à Saqqara. C'est la première véritable pyramide. C'est une série de mastabans pilés les uns sur les autres. Et ensuite, c'est le grand-père de Khufu, de Khéops, qui va être celui qui va créer la première pyramide à surface lisse. Il va faire 2 essais. En premier, il va faire une pyramide qui aujourd'hui est en partie tout à fait écroulé, qui est à Médoum. Ensuite, il va en construire une deuxième qui va en partie s'écrouler, qu'on appelle la pyramide rhomboïdale. Et ensuite, il va en faire une troisième pyramide qu'on dit la pyramide rouge, qui est à face lisse. Et c'est la première pyramide, et c'est celle qui va servir de modèle pour son fils Khéops, qui va construire la grande pyramide sur le plateau de Gizeh. Cela étant dit, bon, c'est vrai que les Égyptiens avaient, au début, les premières tombes étaient souterraines. Mais on voit que dans le concept de la pyramide de Khéops, lui, a choisi d'être enterré ou inhumé au cœur de sa pyramide, hein, la chambre du roi, on suppose, parce qu'elle a sûrement encore d'autres secrets à nous livrer, mais la chambre du roi se trouve au centre de la pyramide. Mais quand je dis que les pyramides ont encore des choses à nous révéler, elles ont des choses, oui, mais faut le faire de manière rigoureuse.
Ouais.
Actuellement, il y a une équipe de scientifiques qui travaille en Égypte depuis quelques années, dont notamment des chercheurs de l'Université Laval à Québec, qui travaillent à ce projet-là, qui s'appelle le projet Scan Pyramide, qui consiste à passer les grands monuments de l'Égypte antique au rayon X. Je dis rayon X, là, c'est plus complexe que ça. On utilise des particules, les particules cosmiques qu'on appelle des muons, là. Mais bon, pour le besoin de notre conversation, là, ça ressemble à des rayons X. Et en passant la Grande Pyramide au rayon X, ils ont découvert que au-dessus de la grande galerie, hein, quand on entre dans la pyramide, si les gens qui nous écoutent l'ont fait ou auront la chance de le faire.
Ah, c'est sur ma liste, Christian, je te le dis.
Quand on entre dans la grande pyramide, il y a cette grande galerie qui mène jusqu'à la chambre du roi, qui est gigantesque. Et là, on sait, grâce à ce travail du groupe de scan pyramide, on sait qu'il y a au-dessus de la grande galerie, il y a un grand espace vide qu'on a le big void, hein, le grand espace. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que c'est simplement une chambre de décharge, c'est-à-dire que les architectes se sont assurés d'avoir un espace vide pour mettre moins de poids sur la structure en dessous, hein, comme on le fait d'ailleurs dans la chambre du roi, quand on a l'impression qu'elle est fermée, mais au-dessus, il y a un grand espace vide qui a été construit pour pas que la chambre du roi
ait
à supporter le poids des blocs qui soient au-dessus. Donc, est-ce que ce grand espace au-dessus de la grande galerie, est-ce que ce n'est qu'une espèce de chambre de décharge pour enlever du poids sur la grande galerie, ou est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Certains vont même jusqu'à poser la question, est-ce que le tombeau du roi ne serait pas là? Est-ce que la chambre du roi, parce qu'elle a toujours été vide, hein, même quand on a pénétré pour la première fois de l'air, entre guillemets, de l'ère moderne dans la pyramide, hein, c'était au 18e siècle, quand on est entré dans la pyramide, quand les gens, au 19e siècle, pardon, quand on est entré dans la pyramide, ben, elle était vide, hein, il n'y a rien là-dedans, la chambre du roi, il n'y avait plus rien là, c'était, bon, fait qu'on s'est dit, bon, écoute, y a-t-il déjà eu un tombeau, et certains archéologues émettent l'hypothèse que peut-être que ce tombeau-là, on savait que les pyramides risquaient d'être l'objet des pilleurs de tombes. Est-ce qu'on n'a pas construit une fausse chambre funéraire qui est la chambre du roi qu'on peut visiter aujourd'hui, et que la véritable place où on avait placé le corps se trouve au-dessus dans ce grand espace que l'équipe de scan pyramide ont réussi à localiser. Mais pour pouvoir vérifier cette hypothèse, il faut pénétrer dans cet espace-là, et pour pénétrer dans l'espace, il faut avoir l'autorisation des autorités, notamment les autorités des antiquités égyptiennes, et il faut faire patte blanche, hein, parce qu'il faut proposer des mesures qui ne soient pas destructives pour pouvoir faire ce genre de travail. On croit également que sous le plateau de Gizeh, Parce que ce qui frappe beaucoup des visiteurs, c'est de dire, oui, dans le tombeau, il y a pas, dans les pyramides, il n'y a pas de fresques. Alors que si on visite, et c'est sûr qu'on est quand même 1000 ans plus tard, là, mais si on visite les tombes qui sont dans la vallée des rois, ce qui nous vient en tête, là, immédiatement, c'est la tombe de Toutankhamon, oui, la plus célèbre. Quand on pénètre dans ces tombes-là, dans la vallée des rois, elles sont remplies de fresques, de dessins magnifiques, qui racontent la vie du roi, du pharaon, alors qu'on n'a rien de ça dans les pyramides sur le plateau de Gizeh.
Ah, fait qu'on n'a pas d'indices non plus.
Non, et pourquoi on n'a pas ces informations-là? Parce que la philosophie à l'époque, c'était la tombe devait être vierge, mais toute l'histoire du pharaon était racontée dans des temples qui étaient à l'extérieur.
Okay.
Donc, quand on voit le plateau de Gizeh, il faut toujours se rappeler que les pyramides qu'on voit, c'est ce qui reste d'un extraordinaire complexe funéraire. Chacune de ces pyramides avait devant elle des temples, un complexe funéraire dans lesquels on avait là des statues, des peintures qui racontaient l'histoire du pharaon. Bon, le sphinx, d'ailleurs, est une partie, justement, de ces vestiges de ce complexe funéraire qui était devant la pyramide de Khéphren. Donc, on sait qu'il y avait devant les pyramides, on peut en voir d'ailleurs des vestiges, il y avait de très vastes temples qui étaient là, qui racontaient la vie du pharaon, et il n'est pas impossible qu'il y ait sous la surface également des galeries, des chambres souterraines qui ont pu ou bien servir de tombe à des proches du pharaon, à la famille des nobles, ou pour d'autres raisons.
Mais pas de là en faire un village.
Mais non, mais c'est ça, il n'y a pas une ville qui est cachée là. Il peut y avoir encore quelques espaces qui demeurent à être découverts. D'ailleurs, au milieu du 20e siècle, on a découvert tout près de la pyramide de Khéops un espace vide dans lequel on a trouvé une barque, hein, qui est la barque funéraire du pharaon Khéops. Hein. Donc, quand il a fait son voyage sur le Nil, là, quand on a transporté son corps, la barque a été démontée et ensevelie aux côtés de la pyramide. Et cette barque a été découverte là au milieu du 20e siècle. Donc, on a des choses encore à découvrir. Mais ce genre d'archéologie fiction qui nous est proposé avec ces espèces de villes souterraines, c'est du fantasme.
C'est bon pour Hollywood.
C'est bon pour Hollywood, c'est bon pour vendre du papier, mais ça n'a absolument aucune assise historique ou archéologique.
Mais les fresques puis les hiéroglyphes que tu as mentionnés, ça faisait partie de mon plus gros questionnement. Je comprends que si on n'avait pas d'archives autour, on pouvait pas savoir où chercher. Mais est-ce que, en terminant, Christian, parce que je vois le temps filer, faut que je laisse la place à la sexploratrice. Mais est-ce que c'est encore un savoir qui s'enseigne, ça? Y a-t-il encore des gens qui se concentrent à apprendre le hiéroglyphe pour le maintenir en vie puis essayer de trouver, justement?
En fait, grâce à Champollion, hein, qui fait partie des expéditions de Napoléon, c'est grâce à lui qu'on a trouvé la pierre de Rosette qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. Mais tu sais que la pyramide de Khéops, là, on sait que c'est la pyramide. Longtemps, on s'est posé la question, est-ce que c'est vraiment la pyramide de Khéops, hein, parce que bon, on avait des vieux récits antiques, tu sais, qui nous disaient, cette pyramide-là, c'est celle du pharaon Khéops. Mais on se disait, ouais, mais qu'est-ce qu'on a comme preuve? Il n'y a pas de fresque à l'intérieur, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas rien. Et il faut vraiment attendre le 19e siècle lorsque l'égyptologie commence à se développer. Il y a une espèce d'aventurier, archéologue anglais, qui va pénétrer dans les chambres de décharge au-dessus de la chambre du pharaon.
Okay.
Et là, c'est extraordinaire, sur une pierre, en partie cachée sous une autre pierre, là, on voit un cartouche fait avec de la peinture rouge et sur lequel est écrit le mot Khufu, hein, le pharaon Khufu. Donc, hein, on voit, c'est un bloc qui a été amené au chantier et quelqu'un, un ouvrier, a mis dessus Khufu en disant « ça va pour la pyramide de Khufu ». Et ce bloc-là, on peut voir encore la trace laissée par l'ouvrier. Et cette preuve-là, elle est indéniable, nous montre bien que la grande pyramide du plateau de Gizeh est bel et bien la pyramide du pharaon Khufu, premier pharaon de la 4e dynastie, père de Khéphren et grand-père de Mykérinos.
Des surprises de même, j'en veux à tous les vendredis, Christian. J'adore ça, parler de, pour vrai, là, c'est quand je dis que c'est sur ma liste,
hein?
Juste la carte postale que laissent les pyramides en image, j'ose même pas imaginer le feeling d'être là-bas, puis de le frôler. Si j'imagine, t'as pas trop le droit d'y toucher, là, mais c'est juste d'être sur place.
Là. Mais tu sais que la grande pyramide, hein, avant, on pouvait beaucoup visiter la grande pyramide. Aujourd'hui, il y a une restriction.
Non,
on entre que 300 personnes par jour.
Le fun est parti.
Ouais, donc il faut que vraiment tu demandes quand tu prends ton billet là pour visiter là, faut que tu t'attendes ton tour, puis ce n'est que il y a un maximum de 300 visiteurs par jour qui peuvent pénétrer dans la pyramide.
C'est très bon à savoir, Christian, je te remercie beaucoup pour
plaisir.
Ce soir. Je te souhaite un excellent week-end et aux auditeurs aussi, et on se dit à lundi pour Suspect X.
Absolument. Ciao.
Bye.